C'est simple mot d'amour, ils sont pour toi. C'est humble chant d'amour en ton honneur. Il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. L'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point
C'est spécial ce matin de vous accueillir pour cette fête des mères, d'autant plus que cette fête des mères-là va être spéciale pour moi et ma chérie, parce que notre fils, son épouse Alexandre, est à l'hôpital dans ce moment, puis elle va avoir un enfant aujourd'hui. Donc, ça va être... Mon fils est nerveux, mais la grand-mère ne porte plus à terre. Ça fait qu'on va s'en souvenir. On est bénis d'être ensemble, d'avoir une communion fraternelle, d'apprendre à se connaître de plus en plus. Frères et sœurs, dans l'Église, c'est merveilleux. La fête des mères, c'est quelque chose de spécial aussi. La fête des mères, ça a commencé, c'est pas d'aujourd'hui la fête des mères. Ça a commencé sous Napoléon. Napoléon, il a dit, « Hey, les mères, ils ont ben trop d'enfants, c'est des mères nombreuses, donc on va lui faire une fête. » Puis c'est là que ça a commencé, puis tranquillement, avec les années, ça s'est multiplié et tout. Puis dans différents pays, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui c'est en février, il y en a qui c'est en décembre, Mais nous, on a déterminé que c'était cette date-là. Mais l'important, c'est de prendre un temps pour les mères et pour les pères. Amen. Parce que la Bible, elle nous dit, « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. » Amen. Donc, si on veut être heureux, prenons soin de nos parents. Prenons soin de nos parents. C'est merveilleux. Ma mère est décédée avec 94 ans. Puis je m'en souviens encore comme si c'était hier de tout ce que ma mère faisait. Elle était spéciale, ma mère. Elle était spéciale. Mais je garde toujours un bon souvenir d'elle. Victor Hugo, il a écrit, hein, il écrivait, il dit, « Oh, l'amour d'une mère, un amour que personne n'oublie. » C'est vrai que personne n'oublie. Il dit, « C'est un pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. » Hein? Il dit, c'est une table toujours servie au paternel foyer. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Hey, ça décrit pas une mère. Hein? Une mère, c'est irremplaçable, irremplaçable, irremplaçable. On peut amener une prédication sur les mères, mais un simple contact avec une mère, ça n'en dit plus qu'une prédication au complet. Hein? Il y a un proverbe qui dit... Un gramme d'amour maternel, ça pèse plus qu'un kilo de sermon du dimanche. C'est pas bon pour les prédicateurs, ça, ce proverbe-là. Mais je vous l'ai dit pareil. Hein? L'amour d'une mère, ça pèse plus parce que l'amour en action, un amour qui se donne, un amour qui se transmet, c'est plus important que juste en parler. Et c'est ça, nos mères. C'est ça, nos mères. C'est un amour qui se donne, un amour qui se transmet. Dans Isaïe 66, 13, ça dit, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolerés dans Jérusalem. » Ici, Dieu, l'amour d'une mère, c'est pour une vie. Il compare l'amour de Dieu, la consolation de Dieu à la consolation d'une mère. À l'amour inconditionnel de Dieu, à l'amour inconditionnel d'une mère. C'est quelque chose. La consolation d'une mère. L'amour d'une mère, c'est pour la vie. Je me souviens que quand je lisais un jour dans Tite, le chapitre 2, le verset 4, ça parle de... Je vais juste vous le paraphraser. Ça dit que les femmes plus âgées... doivent donner des bonnes instructions à ceux qui sont plus jeunes pour aimer leur mari et aimer leurs enfants. Hein? Ça parle un petit peu de ça. Là, là-dedans, là, si tu vas voir le fond de ça, là, ça parle de l'amour philéotechnos. C'est quoi cette bébite-là? Hein? Mais ça, c'est un amour spécial, philéotechnos, que Dieu a donné aux mamans. Un amour qui est encore... Nous autres, les hommes, c'est philéotechnos. Hein, c'est fraternel, c'est juste à la surface. Mais les mamans, elles autres, c'est philéotechnos. C'est un amour pour leurs enfants, un amour pour leur descendance. Hein? Puis là, ça, c'est un amour que j'ai marqué. Ça lui permet d'accueillir chacun de ses enfants comme si c'était un cadeau unique de la main de Dieu. Amen. Même si des fois, ils ne sont pas un cadeau. Hein? Faut se le dire. Puis là, cet amour-là, philéotechnos, là, je me suis aperçu d'une chose. C'est pour la vie. Hein, c'est pour la vie. Parce que ça le dit, maman un jour, maman toujours. Hein? Puis je m'en suis aperçu parce que nous, nos enfants sont partis. Hein, nos enfants sont partis. Puis là, il reste 5 mois à la maison avec ma chérie. Là, je m'ai aperçu que l'amour philéotechnos, ça continue des fois. Des fois, ça commence le jeudi soir. Pour le dimanche matin, puis là, Pauline a dit, « Oh, il y a des petits cheveux sur tes lunettes, là, faudrait bien que tu passeras à la coiffeuse. » Là, le dimanche matin, elle dit, « Ta chemise, es-tu correcte? Tes cheveux, sont-tu peignés? » Là, moi, je me dis à moi-même, « Amphiléotechnos, là. » Là, je me dis, « Ça va y passer. » Mais ça revient tous les semaines. C'est pour la vie, l'amour philéotechnos. C'est pour la vie. Puis, j'aime le dimanche matin quand on vient ici, puis je regarde encore les mamans qui vont enseigner. Les mamans qui vont enseigner à l'école du dimanche. Tu sais, puis je posais la question tantôt, Priscille, Thérèse, Hélène, Francine, qui sont quand même, qui arrivent à un âge un peu plus âgé, puis qui y a encore à cœur de cet amour philéotechnos-là, de continuer d'enseigner les enfants, puis de continuer à les enseigner pour leur montrer les choses, les voies de Dieu, etc. Je trouve ça extraordinaire. D'autant plus que quand j'étais jeune, moi et Pauline, on s'occupait d'un club de jeunes, il y avait au moins 100 jeunes, mais dans ce temps-là, à deux, ça ne nous dérangeait même pas. Aujourd'hui, j'ai rien que mon petit-fils, puis ça me prend tout mon petit champ de finir la journée. Bien, on voit que cet amour philéotechnos qu'il a donné aux dames, c'est extraordinaire. Et c'est pour la vie. Et c'est pour la vie. Et c'est pour la vie, et c'est ça qui est merveilleux. L'amour maternel, c'est un amour qui prend les choses à cœur. C'est un amour qui veut le bien-être. Et pour nous autres, les messieurs, que leurs enfants sont partis, c'est un amour qui veut nous améliorer. Hein? Ce matin, je réfléchissais à une prédication pour la fête des mères. Je me disais, je ne voulais pas parler de femmes extraordinaires, parce qu'il y a beaucoup de femmes extraordinaires dans la parole de Dieu, et des femmes de prière, des femmes qui ont amené des exemples extraordinaires. Je voulais parler de personnes qu'on connaît un peu moins, ou de personnes que... Je vais parler d'une personne dans le Nouveau Testament qu'on ne sait même pas son nom, mais par contre, qu'elle a eu un impact extraordinaire. Un impact extraordinaire. Je vais parler de 6 femmes ce matin. 5 dans l'Ancien Testament, puis une dans le Nouveau Testament. Hein? Je vais parler premièrement des 5 filles de... Faut que je la regarde parce qu'elles ont des noms. De Tselopchad. Hein? 5 filles de Tselopchad. Puis on va le lire un petit peu, c'est dans Nombre 1, allez au verset 11. Ça, là, ces filles-là, ça a été le premier combat de la Bible pour réclamer leur héritage dans la tribu d'Israël. Ça a été le premier combat de femmes pour réclamer leur héritage dans la tribu d'Israël. Ah, il y a une maman philéotechnos qui veut parler à quelqu'un. Les filles de Tselopchad, fils d'Épher, fils de Gad, en tout cas, on va passer ça, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs et les Ahars, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et dirent, « Notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'a point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? » Parce qu'il n'a pas eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselopchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'y a pas de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent, et c'est lui qui la possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. » Hey, c'est quelque chose, là. 5 filles ici, courageuses au maximum, là. Hein, ça prenait des filles courageuses pour aller devant le peuple et dire, « Donne-nous une possession au milieu des frères de notre père. » Hein, ça prenait des filles courageuses parce que ça ne s'était jamais fait avant. Hein, ça prenait de l'audace. Premièrement, il y avait plusieurs raisons contre elle. Premièrement, c'était une loi en Israël. Ceux qui mouraient, les hommes qui mouraient puis il n'y avait pas de fils, ils perdaient leurs héritages. L'héritage était donné aux autres. Perdaient leurs héritages. Deuxièmement, le père, ça dit, on l'a lu, il n'était pas dans la révolte de Corée, mais il est mort dans le désert. Pourquoi il est mort dans le désert? Ceux qui sont morts dans le désert, c'est ceux qui n'avaient pas cru que le pays d'Israël, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Ils sont morts dans le désert par incrédulité. Puis troisièmement, il y avait des filles qui réclamaient l'héritage de leur père. Ça ne s'était jamais fait. C'était des filles. Il n'y avait pas de possession. Il n'y avait rien en leur faveur. Il n'y avait rien en leur faveur, excepté leur courage et leur audace de réclamer leur héritage. Puis en plus de ça, ils devaient présenter une requête publique devant Moïse, devant Éléazar, devant les princes, puis devant toute l'assemblée. Et c'était quelque chose, là. Cinq filles, ils s'en vont devant l'assemblée, puis ils disent, « Nous, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Ah, c'est quelque chose. Moïse aurait pu répondre, « Qui êtes-vous, vous autres, pour contester la loi de l'Éternel? » Qui êtes-vous? Mais là, Moïse a dû voir qu'il était bien déterminé. Hein? Il était bien déterminé. Il dit, « Je vais porter ça devant l'Éternel. Hein? Je vais porter ça devant l'Éternel. » Des fois, quand ma femme vient me voir avec un projet, je sais que ça a déjà passé devant l'Éternel. Ça fait que peut-être que Moïse, c'est la même chose qu'il a vu. Hein? Ça fait que là, il est allé devant l'Éternel consulter l'Éternel. Puis l'Éternel a répondu, « Les filles de Tchad ont raison. » Hey, même Dieu dit, « Ils ont raison. Ils ont raison. » Dieu leur donne une raison, puis il dit, « Ce qu'ils réclament est juste. » Dieu a approuvé leur foi. Puis en plus, il a utilisé les cinq filles de Tchad pour en faire une nouvelle loi en Israël. Une loi qui représenterait mieux la justice de Dieu. Hein? Avec quelle fidélité, quelle audace de ces cinq filles, qui ont fait ce qui était juste, qui ont réclamé leur héritage familial, puis qui sont devenues une bénédiction pour d'autres, parce que toutes les autres ensuite qui allaient vivre, ils allaient pouvoir, eux aussi, réclamer la bénédiction de leur héritage, même si leurs parents étaient décédés, à cause du courage de ces cinq filles. Ils vont être en bénédiction à d'autres. Puis on voit que ça a fait un petit chemin. Puis si on lit entre le chapitre 27 et le chapitre 36, tout d'un coup, il y a eu un problème. Il y a eu un problème parce qu'il y en a qui ont dit, « Ouais, mais... » Dans ce temps-là, c'était sérieux, les possessions d'héritage, puis les territoires que Dieu avait donnés à telle tribu, puis à telle tribu, puis à telle tribu. Puis là, au chapitre 36, il dit... Oh, il saute un verset. Il saute deux versets. Trois versets. Puis là, ce qui va arriver, c'est que le Seigneur, il va dire aux filles de Tselopchad, il va dire... « OK, vous avez eu votre héritage, mais par contre, il y a quelque chose que vous allez devoir faire. Vous allez devoir vous marier avec les gens de la tribu dans laquelle vous êtes, que Dieu vous a placé, parce que sinon, ça va être un trop gros problème. Ça va être un trop gros problème pour les possessions dans le pays d'Israël. » Puis ça dit au verset 11, « Les filles de Tselopchad se confirmèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. » Puis, il s'appelait Machla, Tirsa, Ogla, Milka et Noah, filles de Tselopchad, se marièrent aux fils de leur oncle. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Quelle belle histoire! Amen! Quelle belle histoire! C'est pas une longue histoire, c'est pas une histoire qui... Mais ça nous montre la fidélité, ça nous montre le courage, ça nous montre l'audace de réclamer les promesses de Dieu, de réclamer les bénédictions de Dieu afin que d'autres soient bénis. Puis lorsque je priais pour cette prédication, je me disais, c'est important. Les cinq filles de Tselopchad ont quelque chose à nous enseigner, nous, enfants de Dieu. Parce que nous, enfants de Dieu, on a un héritage dans les cieux. Amen. On a un héritage à réclamer devant le Seigneur. On a un héritage que Dieu veut qu'on on prenne notre héritage. Hein? Donne-nous notre héritage, Seigneur. Donne-nous notre héritage, Seigneur. On a, en tant qu'enfant de Dieu, à réclamer notre héritage. Ça dit dans... Parce que ça dit dans Romains 8, 16 à 17, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » On est héritiers. Amen. Et donc, si on est héritier, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire comme les filles de Tselopchad, on doit réclamer notre héritage. On doit réclamer notre héritage ici-bas. Dans 1 Pierre 3, 4, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Amen. On a un héritage qui nous est réservé dans les cieux, mais on a un héritage dans le moment présent qu'il nous faut saisir dans le moment. Amen. Il nous faut saisir dans le moment. Lorsqu'on lit dans Éphésiens, on voit tout cet héritage-là. Ça dit, en lui vous avez cru, en lui vous avez été scellés, en lui vous avez été régénérés, en lui vous avez votre héritage dans les lieux célestes. Mais encore faut-il commencer déjà à y goûter pleinement dans ce monde. Amen. Je lisais mercredi qu'on vit ici en attendant. On vit ici en attendant. On vit ici en attendant que notre héritage s'accomplisse parfaitement. Amen. On a été sauvés, mais notre salut va être manifesté pleinement dans le ciel. On a été sauvés, mais on attend la rédemption de notre corps qui va avoir lieu pleinement lorsque soit qu'on va monter ou soit qu'on va décéder. On attend aussi ses récompenses, sa rétribution, comme on a dit mercredi. On vit en attendant. Mais il faut réclamer ses promesses. On est là pour réclamer ses promesses. Et je prie ce matin que chaque maman ici au milieu de nous puisse réclamer ses promesses. C'est la première chose que Dieu veut pour ses enfants, c'est de réclamer ses promesses. Parce que ses promesses sont oui et amen. Réclamer nos promesses pour nous-mêmes, réclamer ses promesses pour nos enfants, réclamer ses promesses afin que d'autres soient bénis par notre présence. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous, chacun de nous. Réclamer ses promesses. Prions d'avoir ce même courage, cette même audace pour réclamer de Dieu, pour jouir de cet héritage qui est en devenir. Et je voulais regarder aussi un autre point. Je vous ai dit que je voulais vous parler, pas longtemps ce matin, mais je voulais vous parler d'une madame du Nouveau Testament, une dame du Nouveau Testament. Des fois, dans le Nouveau Testament, on va regarder des gens comme Marie, Marie-Madeleine, ou tous ceux qui ont fait des choses extraordinaires. Mais je veux regarder ce matin une mère dans le Nouveau Testament, qui son nom, on ne sait même pas son nom, mais on sait qu'elle a eu un impact extraordinaire. Puis, souvent, nos noms, vos noms, mesdames, ne seront pas écrits dans un livre peut-être extraordinaire, mais nos noms d'abord sont écrits dans le livre de vie. Amen. Et par contre, on peut avoir un impact extraordinaire autour de nous, dans les gens qu'on côtoie, dans la famille de Dieu, dans nos enfants. Qui sait que les enfants qu'on n'enseignera pas ne deviendront pas des gens qui vont prêcher la parole et qui vont faire un impact extraordinaire dans ce monde? Qui sait? Le Seigneur le sait. Je regardais un verset dans le Nouveau Testament, une mère que personne ne connaît. C'est le verset de Romains 16, 13, ça dit, « Meilleure salutation à Rufus, ce croyant d'élite, et à sa mère, qui est devenue aussi une mère pour moi. » C'est l'apôtre Paul qui parle, là. Hein, c'est l'apôtre Paul qui parle. Paul, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait comme famille. On ne sait pas que quand il, on sait pas si quand il est devenu chrétien, il a été rejeté par sa famille. On sait que dans les Actes, on voit à Mané qu'il y avait une sœur et un neveu, mais c'est tout ce qu'on sait sur sa famille. Mais on sait ici, il dit « Salut Rufus et sa mère, qui est devenue aussi une mère pour moi. » C'est quelque chose, hein? Avez-vous déjà lu ce verset-là? « Est devenue comme une mère pour Paul. » Est devenue comme une mère pour Paul. On sait que Rufus et Alexandre, ils étaient les fils de Simon de Cyrène. C'est ça, qui ont aidé Jésus à porter la croix au Golgotha. C'est ce qu'on sait d'eux autres. Fait qu'on peut supposer que lorsque Paul faisait les voyages missionnaires, il s'en allait rester chez Rufus. Et sa mère était là, c'est sûr. Et Paul, certainement qu'à travers le temps qu'elle a resté là, que Paul a resté là, la mère de Rufus, elle l'a certainement encouragé. Elle l'a certainement conseillé. Elle l'a certainement aidé. Elle a certainement été une aide précieuse pour lui parce que Paul, il dit, est devenue aussi une mère pour moi. C'est quelque chose, hein? Dieu pourvoit même à ce qui nous manque. Dieu pourvoit. Quand j'étais jeune, ça me vient à l'idée. Mon père est décédé, j'étais jeune. Puis, j'ai pas eu vraiment beaucoup de vie d'enfant. Puis quand je suis arrivé dans l'église, je disais, Seigneur, je veux avoir un ministère, c'est pas comme l'école du dimanche, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, mais on ferait toutes nos gaffes ensemble, tu sais. Puis le Seigneur, il a envoyé quelqu'un qui me dit, il dit, Michel, on commence un nouveau ministère, on ne fera pas les affaires comme les autres, ça va tout être pareil, comme j'avais dit à Dieu. Fait tu ne peux pas dire non. J'ai dit, ah, m'a prié du Seigneur, tu vas avoir de l'air spirituel un peu. Mais après, il dit oui. Puis, à travers le ministère du Club des jeunes qu'on a fait pendant 14 ans, Dieu a comblé tout le besoin que ce que je faisais avec les jeunes, ça me faisait du bien dans l'âme. Parce que ça m'avait manqué dans ma vie. Puis ça ici, Paul, la mère de Rufus est devenue certainement une mère pour lui parce que probablement qu'elle comblait le besoin qu'il n'avait pas eu à travers sa mère naturelle ou qu'ils avaient rejeté lorsqu'il est devenu croyant. Mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Amen. Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. À chacun de nos besoins. Puis certainement que la mère de Rufus, elle a eu un impact sur Paul. Elle est devenue comme une mère pour lui. Probablement qu'elle a eu aussi un impact sur les écrits de Paul. Parce qu'on peut voir, j'ai marqué un verset, 1 Thessaloniciens 2, 7 et 8. Ça dit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Il parle quasiment comme une mère, là. Hein? Il parle quasiment comme une mère. « Nous avons été pleins de douceur, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Où est-ce qu'il a appris ça, Paul? Sinon, peut-être de la mère de Rufus, qui est devenue comme une mère pour lui. Il va dire un petit peu plus tard, Paul, « Ne réprimande pas le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » C'est un verset extraordinaire. Dans l'Église du Seigneur, on devient tous parents spirituels. Hein? On devient des frères. On devient des pères. On devient des sœurs. On est des enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Je disais que mercredi, lorsque le père Apolline est décédé, on est allé au salon à Saint-Jérôme. Puis, il y avait des gens que je n'avais pas vus depuis 20 ans, 25 ans. Puis on est arrivé là, puis on s'est serré. Il me semble que ça fait juste... On aurait pu se quitter hier. Mais la communion est encore pareille. La communion est encore pareille, comme elle était dans le temps. J'ai connu des croyants qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, puis on est plus proche que nos familles dans la chair. On est plus proche. Fait que l'Église, c'est une place où on peut avoir des sœurs, des frères, des pères, des mères, spirituellement parlant, afin la famille de Dieu. On a besoin de s'apprécier. On a besoin de s'encourager. On a besoin de s'exhorter. Avez-vous remarqué dans le verset, il n'y a pas marqué de belle-mère? Paul avait une sagesse quand même. Mais c'est le peuple de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Lorsqu'on est à l'Église, c'est de s'apprécier comme des frères, comme des sœurs, comme des mères, comme des pères, et que cet amour fraternel puisse grandir, puisse se multiplier, puisse faire une œuvre dans chacune de nos vies, afin que ça devienne précieux pour nous. Ça devienne précieux dans nos cœurs, que lorsqu'on se rencontre, on a hâte d'aller à la maison de Dieu pour fraterniser, pour prendre du temps. On en parlait il y a deux semaines au restaurant avec Réal, il dit, « Mais il semble que c'est extraordinaire quand on se rencontre. On est devenu plus que juste des croyants anonymes. On devient des frères, des sœurs, des mères, des pères, afin de s'encourager à grandir dans les voies de Dieu. » De s'encourager afin que Dieu fasse un œuvre au milieu de nous. Amen. C'est pour ça que je voulais vous emmener ces six personnes-là aujourd'hui. Les filles de Tsilopchad qui nous encouragent à avoir une audace de réclamer devant Dieu ses promesses, de réclamer cette vie spirituelle, de réclamer devant Dieu notre héritage. Et aussi, la mère de Rufus nous encourage à transmettre cet héritage. À transmettre cet héritage au milieu de nous à travers une poignée de main, à travers un enseignement, à travers une fraternisation, à travers le temps qu'on passe ensemble. C'est lorsque souvent on s'accueille le dimanche matin, puis on prend 10-15 minutes pour juste s'apprécier, c'est aussi bon qu'une prédication. Parce que c'est l'amour de Dieu qui se partage. L'amour de Dieu qui se partage. Et c'est dans ça qu'on grandit. Et c'est dans ça qu'on apprend. C'est dans ça qu'on va aller chercher notre force en tant que croyant. Amen. Un amour qui se partage. Fait que ce matin, je ne voulais pas vous emmener quelque chose de trop long parce qu'on veut prendre un petit peu de temps ce matin avec les mamans. Puis on va juste prier. Puis après ça, on va faire quelque chose de spécial pour les mamans ce matin. On va faire premièrement deux chants. Et ensuite, on va honorer les mamans ce matin qui sont au milieu de nous. Afin que ça soit bénissant ensemble. On est là pour se bénir ce matin. Amen. Afin que Dieu soit béni. On va juste prier ce matin. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour la fête des mères, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Je te prie ce matin qu'on puisse réclamer devant toi notre héritage, Seigneur. Notre héritage que tu veux nous laisser en tant que croyants, Seigneur. Afin qu'on puisse grandir dans tes voies, Seigneur. Et je te prie ce matin, Seigneur, que cet héritage-là, on puisse l'accueillir dans notre vie, mais qu'on puisse aussi le partager. Qu'on puisse aussi le partager afin que chacun soit béni, Seigneur. et que ton Église puisse grandir dans tes voies, Seigneur. Puisse grandir dans cet amour fraternel, dans cet amour de notre Dieu. Bénis ce temps, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.